carrefour de l'Europe.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Punto de encuentro de Europa.
Ευρωπαϊκές Ξηροβάνια.
Daniel Desesquiel.
Rebonjour, rebonsoir. Carrefour de l'Europe, deuxième partie, le débat et une interrogation. Le Kosovo est indépendant depuis maintenant un peu plus de 18 mois. Mais que veut dire le mot indépendance pour un pays enclavé, sans ressources, rejeté par près de 10% de sa population? 10 ans après la guerre serbe et les bombardements de l'OTAN, le Kosovo ou la difficulté d'être indépendant? Bonjour Yves Tomic.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'université Paris-Ouest Nanterre et notamment le cofondateur de la revue Balkanologie de l'Association française d'études sur les Balkans. Jean-Arnaud de Reims, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, journaliste, vous êtes bien sûr le correspondant de RFI à Belgrade et dans les Balkans. Vous êtes le fondateur du site Le Courrier des Balkans, notre partenaire pour cette émission. Votre dernier livre, Le piège du Kosovo, il est publié aux éditions Non-Lieu. Belgisim Kamberi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue et journaliste, rédacteur en chef adjoint de Api Korak. C'est un mensuel serbo-albanais. Ça veut dire quoi, Api Korak?
Ça veut dire le pas.
Le pas en albanais et le pas en serbe, c'est ça?
Oui, le pas en serbe, comme Korak en serbe.
Dans les deux langues?
Dans les deux langues.
Merci d'être en ligne avec nous de Pristina, la capitale du Kosovo.
Passer la plupart du temps dans de petites voitures Zastava, plusieurs centaines d'Albanais ont franchi la frontière macédonienne à Blace. Ils ont fui le chaos et la terreur qui règnent de l'autre côté, au Kosovo. Témoin, Mustafa Domalekou. La cinquantaine robuste, il a quitté sa bourgade d'Urosevac à mi-distance entre Skopje et Pristina.
Donc la situation est très mauvaise là-bas. Toutes les maisons des Albanais, les plus belles maisons des Albanais ont été tout d'abord pillées et ensuite enflammées. Pendant la nuit, c'est le pire.
Raïm Soulemi, 45 ans, arrive lui de Pristina avec toute sa famille. Et quand on demande à Raïm Soulemi s'il estime que les bombardements de l'OTAN vont arrêter les Serbes et les amener à la table de négociation, il répond sans hésiter. Non, les bombardements seuls ne suffisent pas. Il faut sauver les gens qui habitent là-bas et aller les chercher. Si les exactions contre les Albanais du Kosovo se poursuivent malgré les frappes aériennes, comme c'est le cas aujourd'hui, il faudra bien que l'OTAN envisage d'envoyer des troupes au sol. L'OTAN a justement dépêché 10 000 hommes en Macédoine. Leurs canons sont dirigés vers le nord, c'est-à-dire vers le Kosovo, mais ils ne bougent pas, ils attendent.
C'était un retour en arrière d'un peu plus de 10 ans. Nous sommes en mars 99 et je me trouve à la frontière entre le Kosovo et la Macédoine. Et les exactions serbes contre les Albanais du Kosovo conduisent ces derniers à quitter en masse leur pays. Environ 1 million de Kosovars sur une population de 2 millions de personnes fuient le pays en quelques jours. Alors, Belgisim Kamberi, est-ce que vous étiez à l'époque parmi ceux qui ont fui le pays?
Non, je suis resté sur place, que ce soit pendant les conflits armés pendant l'année 98 ou 99, ou que ce soit pendant les bombardements de l'OTAN, malgré que je me suis réfugié dans le sud de la Serbie, dans ma ville natale, à Preševo, où il y avait un peu plus de sécurité pour les albanophones.
Alors, sans refaire toute l'histoire, Yves Tomic, la guerre a été brève, car l'OTAN est rapidement entrée en action, et Slobodan Milošević, qui dirigeait la Serbie en 1999, a dû très rapidement quitter le Kosovo pour mettre fin au bombardement de Belgrade.
Oui, moi, la guerre avait commencé en 98, puisque donc il y a eu le développement, disons, d'une armée d'insurrection, donc l'armée Lucheka, l'armée de libération du Kosovo, donc puisqu'il y a eu une contestation, à l'époque, en fait, de la ligne qui était suivie par le parti politique dominant des Albanais, donc la Ligue démocratique du Kosovo d'Ibrahim Rugova, qui avait une posture plutôt pacifiste et qui ne donnait pas de résultats pour certains Albanais. Il n'y avait pas d'avancée vers l'indépendance. Donc il y a une contestation de cette ligne, le développement d'une action militaire de la part de certains Albanais qui a débouché sur certaines actions, donc des attaques de postes de police serbes à l'intérieur du Kosovo dès 97. Ensuite on a une escalade de la violence en 98 et les bombardements de l'OTAN arrivent, si vous voulez, après un moment où on voit que les négociations entre les différentes parties ne donnent aucun résultat et que les violences se poursuivent.
Oui, la vague de bombardements de l'OTAN sur le Kosovo est bien évidemment sur la Serbie, notamment sur Belgrade, ça a duré environ 3 mois.
Oui, entre le 24 mars et donc le 8-9 juin, donc ça a été 70 jours avec quelques, effectivement, de bombardements.
Jean-Arnaud de Reims, depuis la fin de la guerre et jusqu'à la proclamation de son indépendance en février 2008, le Kosovo a vécu sous une tutelle internationale.
Oui, sous un régime de protectorat assuré par les Nations Unies, par la mission intérimaire d'administration des Nations Unies. Un protectorat dont le bilan est globalement négatif. Je crois que tout le monde s'accorde pour le reconnaître, puisque ce protectorat n'a pas permis d'avancer sur les objectifs importants qui étaient la construction, la reconstruction d'une société, ce que l'on appelle multiethnique, enfin tout simplement où tous les citoyens du Kosovo, quelle que soit leur nationalité, auraient pu vivre sur ce territoire. L'échec de ce protectorat est également patent dans le domaine économique, dans le domaine de la construction de l'état de droit, dans la transformation du Kosovo en quelque chose qui aurait pu ressembler à un état viable. Ces 10 années ont été assez largement perdues. Le constat est malheureusement, je crois, unanime sur ce point, mais je crois que le problème initial, c'est que en réalité, ce protectorat n'avait pas de but, pas d'objectif, et n'avait pas de terme dans le temps. C'est-à-dire qu'en 99, personne ne savait vraiment quoi faire du Kosovo. On a mis en place ce protectorat, faute de mieux, sans lui assigner des objectifs précis, ni un calendrier précis. Donc bien évidemment, durant ces presque 10 années, l'impatience des Albanais a grandi, tout comme le mécontentement des Serbes.
Vous êtes aussi critique que Jean-Arnaud de Reims sur cette période de transition et de tutelle internationale ?
Oui, je pense aussi personnellement que le problème principal de ce protectorat est non seulement qu'il n'a pas réussi à assurer une plus forte stabilité politique et cohésion intérieure entre les ethnies qui vivent au Kosovo, mais surtout qu'il n'a pas réussi à avancer sur les questions du développement économique. Mais je pense qu'effectivement, le problème peut-être principal, c'est que ce protectorat n'avait pas de calendrier, d'objectif. Comme malheureusement, je pense, peut-être qu'on va en revenir pendant l'émission, aussi que je pense que c'est un peu l'erreur que ce que fait maintenant la mission européenne au Kosovo, l'ELEX, qui commence de plus en plus à avoir un peu la même image que le protectorat international des Nations Unies au Kosovo pendant ces 10 années de transition.
Alors, si les institutions internationales n'avaient pas trop d'idées de quoi faire du Kosovo, ce n'était pas le cas des Kosovars et des Albanais du Kosovo qui avaient en tête un objectif, l'indépendance. C'était le 17 février 2008.
Nous sommes très contents, tout court. On espère un avenir un peu mieux qu'auparavant et une belle vie.
Vous portez les deux drapeaux à la fois. Pourquoi ?
Le premier, c'est le drapeau du Kosovo. Et le deuxième, c'est celui des États-Unis. C'est la première puissance mondiale. Sans eux, on ne peut rien faire.
Et qu'est-ce que vous espérez pour les lendemains de l'indépendance du Kosovo ?
Tant que nous n'avions pas de constitution, il n'y avait pas d'investisseurs étrangers. Maintenant que nous avons une constitution, nous espérons que les investisseurs vont venir en nombre de tous les pays.
Et est-ce que vous pensez que le Kosovo sera un pays sûr aussi pour la minorité serbe ?
Bien sûr, à l'époque de la Yougoslavie, on était tous égaux. Il s'est passé 10 ans entre le génocide perpétré par Milosevic et l'indépendance du Kosovo. C'est une garantie de sécurité pour les Serbes.
RFI à Pristina, 101 FM.
Alors, il y avait, on l'entend très bien dans le reportage d'Heike Schmitz, beaucoup d'enthousiasme ce 17 février 2008. Belgzim Kamberi, est-ce que cet enthousiasme est retombé ou est-ce qu'il y a encore une flamme d'un jeune pays qui a tout à construire ?
Je pense personnellement qu'elle n'est pas beaucoup retombée parce qu'il y a toujours l'émotionnel qui domine dans les esprits, surtout dans les esprits des Albanais du Kosovo. Parce qu'il y a un processus qui est en train de se dérouler, c'est le processus de la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo par les pays souverains. Et ce processus, donc, ne se déroule pas dans une dynamique qui était attendue. Donc, en ce contexte, tout ce processus fait toujours garder cet enthousiasme du côté des Albanais du Kosovo, qui pensent qu'évidemment, il faut toujours attendre cette reconnaissance internationale en renforçant le sentiment national intérieur.
Alors, si je ne dis pas de bêtises, il y a aujourd'hui 54 pays qui reconnaissent le Kosovo.
Plus de 60, parce qu'il y a eu ces derniers temps, enfin ces 2 derniers mois aussi, quelques autres pays qui ont reconnu l'indépendance du Kosovo, mais nous sommes encore loin de plus de centaines de pays qui devraient reconnaître l'indépendance, ou du moins de l'objectif qu'avait misé le gouvernement du Kosovo quand il avait proclamé l'indépendance le 17 février.
Jean-Arnaud de Reims, au moment de l'indépendance, on peut craindre beaucoup de choses. On peut craindre que les affrontements entre les deux communautés serbes et albanaises se produisent. 18 mois après l'indépendance, il faut reconnaître qu'il n'y a pas eu beaucoup d'exactions de part et d'autre, semble-t-il.
Non, tout à fait. La situation est effectivement plutôt calme. de ce point de vue-là, beaucoup de gens, notamment les pays occidentaux, se réjouissent parce que je dirais que leur seul objectif était de maintenir le calme. Donc, bien évidemment, il faut se réjouir de cette absence de violence, mais en même temps constater que cela ne suffit pas pour régler les problèmes du Kosovo, notamment cette situation d'entre-deux dans lequel se trouve plongé le Kosovo. Aujourd'hui, le Kosovo est dans un no man's land. C'est une sorte d'état virtuel, puisque proclamer une indépendance, ça tout le monde peut le faire, mais cela n'a un sens que si cette indépendance est reconnue par un nombre suffisant d'autres acteurs de la communauté internationale. Or aujourd'hui, le Kosovo n'est pas reconnu par un nombre suffisant d'États, ce qui veut dire également que le Kosovo reste à la porte de la plupart des organisations internationales. En juin, il y a eu un succès important pour le Kosovo, qui était son entrée au FMI, à la Banque mondiale, mais pour le reste, le Kosovo ne peut pas espérer rejoindre aujourd'hui les Nations Unies, le Conseil de l'Europe, l'OSCE, ou les fédérations sportives internationales. Alors, ça peut paraître dérisoire, mais enfin, quel est aujourd'hui le sens de la souveraineté d'un État qui n'est pas membre de la FIFA quand on sait que le football est un des marqueurs principaux de la souveraineté politique?
Alors, Yves Lemaitre, il faut peut-être rappeler en quelques mots à quoi ressemble le Kosovo. C'est un petit pays, hein, 2 millions d'habitants, très enclavé.
Oui, c'est un petit pays donc de à peu près 2 millions d'habitants. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu de recensement démographique complet depuis 1991. Donc c'est un des problèmes, justement, quand on parle également donc, de développement économique. Si on n'a pas des indicateurs précis, et notamment sur la population, c'est la voie ouverte à toutes sortes de manipulations. Parce que, par exemple, concernant les Serbes, on nous dit parfois, oui, il y a 120 000, 150 000 Serbes. Certains disent plutôt 90 000. En fait, on n'a aucune preuve, on n'a aucun élément tangible.
Disons entre 5 et 10% de la population.
Oui, 5 et 10%. Mais donc, effectivement, donc le Kosovo, c'est un petit pays avec des capacités de développement, il faut dire, quand même réduites. Et on voit aujourd'hui, c'est un des gros problèmes qui n'est pas toujours, je dirais, traité de manière sérieuse. Mais le problème du Kosovo aujourd'hui, c'est qu'effectivement, comme l'a rappelé Jean-Arnaud Derrins, c'est que c'est une souveraineté, une indépendance tout à fait limitée, contrôlée. Et donc le Kosovo, qui est malgré tout engagé, disons, dans le processus d'adhésion à l'Union européenne, verra un jour ou l'autre, de toute façon, ce processus s'arrêter dans la mesure où 5 pays de l'Union européenne n'ont pas reconnu donc le Kosovo comme État indépendant.
Et pas des moindres.
Pas des moindres, l'Espagne, la Slovaquie, la Roumanie, la Grèce et Chypre. Donc à partir du moment où il y a un processus qui nécessite, disons, une unanimité, disons, on voit par exemple la Serbie s'est retrouvée coincée donc, dans son processus d'adhésion à l'Union européenne du fait de la position des Pays-Bas qui requiert toujours que la Serbie livre Ratko Mladic donc, au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, donc a bloqué le processus d'adhésion de la Serbie. De la même façon, on a eu un cas entre la Slovénie et la Croatie, parce que bon, il y a un petit différent territorial entre la Slovénie et la Croatie. La Slovénie a posé son veto et a bloqué pendant plusieurs mois donc le cheminement, disons, de la Croatie vers l'Union européenne.
Et il faut rappeler que les pays qui n'en connaissent pas le Kosovo, ce sont des pays qui craignent une sécession, et par exemple, dans le cas de l'Espagne, une sécession du Pays Basque ou de la Catalogne.
Oui, ce sont des pays qui ont des problèmes de minorité. Pour ce qui est de la Slovaquie, bon, il y a une minorité hongroise. On a le même cas pour la Roumanie, où il y a une forte minorité hongroise. La Grèce, c'est plus par solidarité, je pense, donc avec la Serbie, donc orthodoxe, entre frères orthodoxes, même si la Grèce a aussi des problèmes de minorité avec ses minorités musulmanes. Toujours est-il que cela posera problème pour le Kosovo dans son cheminement, disons, vers l'adhésion à l'Union européenne.
Évidemment, donc un pays difficile à diriger, et on peut se poser la question, qui dirige le Kosovo, Belzim Kamberi? Est-ce que c'est le Premier ministre? Est-ce que c'est le président, le Premier ministre Hashim Thaçi, le président Fatmir Sejdiu? Ou est-ce que c'est l'Union européenne à travers ELEX, 2000 hommes, même un peu plus, qui maintiennent une présence internationale et européenne au Kosovo?
Justement, il est très difficile de savoir qui dirige aujourd'hui le Kosovo.
Même vous, vous avez du mal.
Oui, même nous, ici, comme citoyens au Kosovo, nous avons du mal à savoir quelles sont les compétences des différentes instances, qu'elles soient nationales ou internationales. Au Kosovo, comme vous savez, non seulement il y a la mission européenne de l'ELEX qui s'est déployée au Kosovo il y a quelques temps maintenant, mais il y a toujours aussi la mission des Nations Unies, la MINUC, qui s'est déployée donc après la fin du conflit au Kosovo et qui est toujours ici selon la résolution 1244 des Nations Unies. Entre-temps, nous avons le gouvernement du Kosovo, mais il y a aussi le gouvernement de la Serbie qui, à travers les institutions parallèles serbes, contrôle les institutions surtout des Serbes qui vivent dans les enclaves du Kosovo. C'est vraiment un puzzle de compétences et il est très difficile de savoir qui est compétent, et on revient sur la question, est-ce que ce pays est réellement souverain et réellement un État indépendant classique?
Alors évidemment, dans ces conditions, c'est difficile d'investir au Kosovo, d'attirer des investissements étrangers. Et d'ailleurs, Jean-Arnaud de Reims, il n'y a quasiment aucun investissement étranger au Kosovo.
Oui, il n'y a effectivement pas d'investissement étranger, ou quasiment pas. C'est la même situation qui perdure depuis 1999. Alors c'est vrai que la situation du Kosovo est très difficile. C'est un territoire sous-développé, qui était une région sous-développée de l'ancienne Yougoslavie. C'était l'entité la plus faible de l'ancienne fédération yougoslave. durant ces 10 années de protectorat, il n'y a pas eu de politique, en tout cas, il n'y a pas eu de résultat tangible dans une politique de développement économique, et aujourd'hui, la situation continue. Il y a eu une conférence des donateurs, par exemple, quelques mois après la proclamation d'indépendance, qui a accordé un peu plus d'un milliard d'euros au Kosovo. C'est à la fois beaucoup d'argent, mais c'est en même temps extrêmement peu pour relancer l'économie d'un pays, même si ce pays est petit. Et surtout, ces sommes ont été dispersées dans un grand nombre de projets d'infrastructures, souvent, certes nécessaires, mais qui ne forment pas une stratégie de développement. Aujourd'hui, le principal projet, c'est l'autoroute qui est en train de s'achever et qui relie le Kosovo à l'Albanie, avec pas mal de difficultés d'ailleurs, puisque c'est extrêmement difficile à travers les hautes montagnes du nord de l'Albanie. Et le Kosovo mise son développement à l'avenir sur ce lien avec l'Albanie. On verra bien si c'est la bonne carte. Je parle là d'un point de vue économique, pas d'un point de vue politique. Le fait est aussi que le Kosovo, malgré cela, ne peut pas imaginer son développement sans d'excellentes relations avec tous ses voisins, et notamment avec le principal de ses voisins, qui est et qui demeurera la Serbie. Ça, c'est une donnée géographique, on ne va pas déplacer le Kosovo et la Serbie. Or, le développement du Kosovo, de ce Kosovo extrêmement pauvre, avec un chômage massif, même si on n'a pas de chiffre exact, avec une jeunesse pléthorique qui n'a aujourd'hui aucune possibilité réelle de construire sa vie, son avenir dans son pays, le développement de ce Kosovo ne peut pas s'imaginer dans un contexte de blocage avec la Serbie. Or, aujourd'hui, le blocage est total.
Oui, parce que du côté de Belgrade, évidemment, on ne reconnaît toujours pas l'indépendance du Kosovo, et même, je dirais, les plus européens des dirigeants serbes à Belgrade ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo et n'envisagent pas de la reconnaître, Tomić.
Effectivement, c'est le cas. C'est, disons, la posture qui a été choisie par le gouvernement démocrate actuel à Belgrade. Est-ce que c'est la bonne voie? Ça, j'en suis pas certain. Toujours est-il qu'ils ont malgré tout reconnu de fait la présence de la mission donc européenne, donc EULEX, puisqu'il y a un accord qui a été signé donc avec cette mission donc en septembre, même s'ils ne vont pas montrer des images de la signature de cet accord, puisque bon, c'est de fait reconnaître d'une certaine manière qu'il existe un Kosovo en dehors de la Serbie avec une mission internationale à l'intérieur. Maintenant, effectivement, la Serbie fait tout et mise sur la Cour internationale de justice donc à La Haye pour bloquer le processus. Mais bon, cette Cour ne rendra qu'un avis de toute façon, qui ne sera pas un avis qui aura des conséquences concrètes. Ça sera juste un simple avis qui sera émis. Mais la Serbie œuvre aujourd'hui encore, auprès même des pays du mouvement, par exemple, des pays non alignés. Récemment encore, le ministre des Affaires étrangères, Vukić Jeremić, était à Cuba pour essayer encore de convaincre, disons, un certain nombre de pays à ne pas reconnaître l'indépendance du Kosovo. Donc c'est une diplomatie très active que l'on observe depuis la proclamation de l'indépendance du Kosovo, donc en février 2008. Si on comptait le nombre d'heures de vol, disons, du ministre des Affaires étrangères serbe, Vukić Jeremić, elles sont très nombreuses. Et
à chaque fois, c'est la même stratégie, c'est maintenir le Kosovo dans le plus grand isolement possible.
Voilà, réduire au maximum, disons, le nombre d'États qui reconnaîtraient donc l'indépendance du Kosovo.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel.
Belzim Camberi, je voudrais revenir sur ce que disait un instant Jean-Arnaud de Reims. Construire une autoroute entre Pristina et Tirana, la capitale de l'Albanie, c'est pas forcément ce qui vient tout de suite à l'esprit si on veut développer le pays, car l'Albanie est aussi un des pays les plus pauvres et les plus misérables de l'Europe.
Je pense personnellement quand même que l'Albanie a changé beaucoup pendant ces 10 dernières années, mais qu'il ne faut pas oublier aussi que l'Albanie reste quand même le pays où les Kosovars ont une liberté de circulation, que ce soit des gens ou des personnes ou des marchandises. Donc il y a quand même un contexte économique aussi, à part sur le contexte politique, donc de rapprocher plus les Albanais entre eux. Il reste évidemment à voir, comme a dit Jean-Arnaud Derrin, si dans un contexte économique, cette autoroute va servir au développement aussi du Kosovo et de l'Albanie réciproquement. Mais il ne faut pas oublier aussi de prendre aussi en contexte justement cette question économique et que l'Albanie reste un partenaire privilégié pour le Kosovo, surtout ce Kosovo qui actuellement est assez isolé avec ses voisins de l'ex-Yougoslavie, principalement avec la Serbie.
Jean-Arnaud de Reims, la perspective, l'avenir du Kosovo, c'est évidemment un rapprochement avec l'Union européenne, mais ça ne peut pas être pour demain.
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a quand même beaucoup de problèmes. L'Union européenne a déployé une mission au Kosovo qui est en théorie une mission technique. Je mets le mot avec énormément de guillemets parce que je crois que ce terme ne veut pas dire grand-chose dès que cette mission s'occupe de l'état de droit, de la police, de la justice, qui sont des fonctions régaliennes par essence. En théorie, tous les pays de la région ont une vocation à rejoindre l'Union européenne. Mais en réalité, si l'on regarde les choses, c'est des blocages partout. Yves Tomić en a évoqué certains. Aujourd'hui, Bien évidemment, le Kosovo ne peut pas prétendre s'engager réellement dans un processus d'intégration tant que son statut politique ne sera pas définitivement réglé. Or, ce n'est toujours pas le cas. Mais la situation est vraie aussi pour la Serbie, qui est plus en avance, bien sûr, que le Kosovo dans le processus d'intégration européenne. Mais à un moment ou l'autre, se posera quand même la question de savoir quelle Serbie on veut intégrer. Une Serbie avec ou sans le Kosovo. Quand les ministres, les fonctionnaires serbes négocient avec l'Union européenne, ils estiment représenter une Serbie qui inclut le Kosovo. Il faudra tout de même bien trancher la question avant que le processus d'intégration et de la Serbie et du Kosovo ne puisse aller plus loin. Ce qui veut dire qu'il ne pourra pas y avoir de véritable solution tant que des formes nouvelles d'accord n'auront pas été trouvées entre le Kosovo et la Serbie. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on est obligé d'être très critique sur le processus de négociation, là aussi je mets des guillemets, qui ont précédé la proclamation d'indépendance du Kosovo. Parce qu'au bout du compte, on a quand même mis les Kosovars dans une sérieuse impasse. On leur a promis des reconnaissances qui ne sont arrivées que très partiellement, et on a mis le pays dans cette situation, voilà, dans cette impasse. Et en mettant aussi la Serbie très largement dans une impasse, parce que la diplomatie serbe est très active, gagne du temps, obtient même des succès, je crois, que personne n'aurait pu imaginer, mais en même temps, c'est pas ça qui va régler les choses. C'est une stratégie de retardement que mène la Serbie, point final, rien d'autre. Donc, toute la région se trouve en réalité bloquée. Et la proclamation d'indépendance du 17 février 2008, de ce point de vue-là, n'a pas contribué à simplifier les choses, bien au contraire.
D'autant plus que la région, globalement, est relativement déstabilisée. Le statut de la Bosnie-Herzégovine est loin d'être clarifié. La Macédoine progresse un petit peu, mais tout de même, c'est toute une région en difficulté.
Oui, alors je crois qu'il ne faut pas relier tous les problèmes au Kosovo. Dans le cas de la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, c'est un argument rhétorique que peuvent utiliser les Serbes de Bosnie en disant « Certains pays occidentaux ont reconnu le Kosovo, nous aussi nous allons proclamer notre indépendance ». Mais c'est un argument essentiellement rhétorique. La Bosnie est bloquée, elle se trouve dans une crise terrible, qui est en train de s'aggraver d'ailleurs ces jours-ci de manière très inquiétante, mais une crise qui a des racines fondamentalement endogènes qui tiennent aux institutions de ce pays qui ne peuvent pas fonctionner. La région, pour le reste, si l'on regarde la Macédoine, c'est un pays qui ne progresse pas. Là, je suis un petit peu obligé de contester ce que vous avez dit. C'est un pays qui ne progresse pas dans la voie de l'intégration européenne et qui ne pourra pas progresser parce que là aussi, il y a des dossiers non réglés, principalement la querelle sur le nom du pays avec la Grèce. Pour le coup, j'ai envie de faire une remarque. Ce conflit empoisonne les relations régionales depuis l'indépendance de la Macédoine, depuis 17 ans. Or, c'est un conflit qui oppose un pays membre de l'Union européenne, la Grèce, et un pays qui a le statut officiel de candidat, la Macédoine. Or, sur ce conflit, l'Union européenne est totalement absente. Je crois qu'aujourd'hui, il y a réellement une crise grave de la politique européenne dans les Balkans, où finalement, l'alpha et l'oméga de la politique européenne, c'est garder, de maintenir le calme. Ça marche, il n'y a pas eu de violence au Kosovo, très bien. Mais cela ne fait pas une politique, et le processus d'intégration, qui demeure la seule perspective de la région, devient de plus en plus évanescent parce que les foyers de crise se multiplient et sur les vrais enjeux, les vrais dossiers, l'Union européenne n'est pas capable de définir une politique cohérente, n'est pas capable de tenir un discours cohérent. Et on le voit bien évidemment dans le cas du Kosovo où l'Europe est divisée puisque 5 États membres n'ont pas reconnu l'indépendance.
Jean Arnaud, le traité de Lisbonne va se mettre en place petit à petit, en tout cas on peut l'imaginer et de mon point de vue l'espérer. Il y aura donc un haut représentant des affaires étrangères européens, ministre des Affaires européens, ce sera évidemment un dossier qu'il devra traiter de très près, le Kosovo et la région.
Oui, bien évidemment, c'est de toute manière aujourd'hui, je dirais, le principal dossier. Enfin, comment est-ce que l'Union européenne peut imaginer fonctionner quand au milieu de ses frontières, il y a cette sorte d'île que constitue ce que l'on appelle les Balkans occidentaux? C'est tout simplement inenvisageable. Et l'intégration de cette région doit se faire, j'ai envie de dire, le plus vite possible. Je ne parle pas en termes de mois, je parle en termes d'années, bien évidemment. Mais il faut que cela soit un processus qui se remette en marche. C'est vital, essentiel pour l'Union européenne elle-même. Et dans le cadre de ce processus, la question du Kosovo reste bien évidemment le dossier régional le plus important. On verra ce qui se passera à l'avenir. Je ne suis pas prophète, je constate juste aujourd'hui qu'il y a une situation de blocage qui est très inquiétante, d'autant plus que quand l'Union européenne envoie des signaux montrant que de fait tout est bloqué, ce sont bien évidemment les courants démocratiques pro-européens des différents pays de la région qui se retrouvent eux-mêmes en porte-à-faux. Les forces politiques qui s'opposent aux nationalistes, qui disent la perspective c'est l'intégration européenne et la réconciliation régionale, sont en quelque sorte en apesanteur quand du côté de l'Union européenne, il est clair qu'il n'y a pas vraiment de signaux positifs.
Yves Tomic, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Est-ce que vous allez nous donner une petite note d'optimisme?
Oui, je un moment donné, j'espère, en tout cas, là on voit que justement le veto slovène a été levé puisqu'un accord a été trouvé entre la Slovénie et la Croatie à propos du différend territorial dans le golfe de Piran, donc dans la mer Adriatique. Donc on peut supposer que la Croatie, d'ici peu, va pouvoir intégrer donc l'Union européenne à partir du moment où on sera sorti donc de cette crise concernant donc l'adoption du traité de Lisbonne. Donc ça sera déjà une première étape. Je pense qu'à partir du moment où la Croatie entrera dans l'Union, d'ici peut-être un an ou deux, on l'espère, ça va être justement une première étape de l'intégration. Voilà, le premier pas. Et après, la Serbie sera probablement le second pays à rejoindre l'Union si effectivement elle arrive à adopter, disons, une attitude plus souple quant à la question du Kosovo. Mais je pense effectivement que la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo resteront les deux États, disons, problématiques dans la mesure où il n'y a pas de cohésion interne dans ces États, puisque donc la Bosnie avec la Fédération croato-bosniaque et la République Srpska qui n'arrive pas à s'entendre sur ce que justement doit être ce pays, donc la Bosnie-Herzégovine. Et on a la même situation au Kosovo où finalement les autorités centrales de Pristina ne contrôlent pas l'ensemble du territoire, puisque dans le nord du Kosovo, qui est contrôlé par les Serbes, les autorités centrales, disons, n'exercent aucune influence. On est un peu dans le même cas de figure. On n'a pas la même vision, disons, du Kosovo en fonction de l'endroit où l'on vit. Donc là, c'est problématique. Mais par ailleurs, je pense qu'il y aura malgré tout des avancées, et la première sera
une contagion européenne à travers la Croatie. Yves Tomic, Jean-Arnaud de Reims, Belgium Cameri, merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Merci à Camille Deloche, Marc Munier et Thomas Ferrière qui ont tantôt préparé ou réalisé cette émission. Pour nous retrouver sur internet, RFI.fr, onglet radio, ou plus simplement encore taper Carrefour de l'Europe RFI sur votre moteur de recherche. Et là, sur la page de l'émission, les références de nos invités, leur site, leur blog, la vidéo du buzz, l'interview complète d'Anna Politkovskaya, les archives de l'émission et la possibilité de vous abonner gratuitement au podcast de Carrefour de l'Europe. Où que vous soyez au Kosovo, où vous nous écoutez sur 101 MHz en modulation de fréquence, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, Daniel Desescales, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
Cette émission vous a été proposée en partenariat avec l'Association européenne de radio, Euranet.